Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et juste un petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui avec Wassim Nasr, simplement pour signaler que vous êtes nombreux à m'envoyer de temps en temps des questions par les réseaux sociaux ou par mail sur des sujets de fond sur lesquels je suis généralement pas spécialiste mais qu'on a traité de près ou de loin dans le podcast. Donc j'ai pensé que ce serait probablement une bonne idée de les réunir à l'intérieur d'une émission. On pourrait faire une émission en quelque sorte sac à questions ou foire aux questions. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. En tout cas, là, les envoyer par mail à l'IRSEM et je les réunirai. J'en ferai une émission en interrogeant des divers spécialistes sur chaque thème, si on en a assez, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc, aujourd'hui, pour parler de djihadisme, d'Al-Qaïda, de l'État islamique et de leurs emprises territoriales, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste du djihadisme et des groupes terroristes, auteur notamment en 2016 de « L'État islamique, le fait accompli » chez Plon. Donc bonjour Wassim, bienvenue de retour dans le Collimateur. Alors je vais simplement rappeler que vous étiez évidemment déjà venu il y a quelques mois pour nous parler déjà de groupes djihadistes et de leur dynamique, mais on s'était concentré à l'époque sur une zone géographique qui était le Sahel, notamment à la suite de l'élimination d'Abdelmalek Droukdel par l'armée française en juin dernier. Alors, on va évidemment en reparler parce que c'est important, c'est un des lieux où les groupes djihadistes contemporains frappent actuellement, aussi bien l'État islamique qu'Al-Qaïda, et ça concerne évidemment largement l'armée française et l'opération Barkhane, dont l'avenir est très discuté en ce moment, mais tout en évidemment actualisant ça, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois que vous êtes venu, on va essayer de voir un peu plus large et de ne pas se répéter, et je renvoie évidemment les auditeurs à votre premier passage dans l'émission s'ils veulent se replonger dans les racines du djihadisme au Sahel. Mais il se passe d'autres choses, notamment en Irak très récemment, puisqu'un attentat attribué à l'État islamique a fait plus de 30 morts et 100 blessés à Bagdad il y a quelques semaines, et évidemment on se perd toujours facilement dans les comptes de victimes, surtout quand ça concerne l'Irak, parce qu'on a un peu pris l'habitude depuis plus de 15 ans d'avoir ces bilans régulièrement dans les médias. Mais mentionnons que ça n'est pas anodin, puisque ça faisait 3 ans que Daesh n'avait pas frappé à Bagdad, et donc c'est le signe qu'il se passe peut-être quelque chose sur ce front-là, qu'il va donc falloir décrypter. Donc, on va parler de l'Irak, que vous connaissez bien, et dont on a peu parlé globalement jusque-là. On avait fait une émission avec Charles Tepo il y a quelques mois, mais qui était moins centrée peut-être sur les mécanismes internes des groupes djihadistes. Et on va parler du Sahel aussi, évidemment. Mais du coup, le dénominateur commun serait peut-être ces mutations du djihadisme contemporain, notamment depuis la chute de l'État islamique en Irak et en Syrie, et la manière dont ce djihadisme se recompose et se reconfigure sans place forte à proprement parler et sans territoire vraiment à défendre, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique, et même au-delà. Donc, on va peut-être pas faire la période Daesh et État islamique mois par mois, mais quand même, c'est-à-dire de la même manière que la dernière fois vous nous aviez un peu fait la généalogie du djihadisme au Sahel, qui remontait à l'Afghanistan, puis à la guerre civile en Algérie, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu la même chose au Levant? C'est-à-dire qu'on sait bien que l'État islamique a fermenté, a prospéré sur un terreau fertile avec la chute de Saddam Hussein, et l'invasion américaine de l'Irak, et puis avant d'apparaître sur le devant de la scène en 2013-2014. Mais même avant, d'où est-ce qu'ils venaient, ces djihadistes qui allaient former l'État islamique? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des Irakiens? Dans quelle mesure? Et puis, comment est-ce qu'ils sont progressivement constitués et organisés en groupe?
Donc, merci de me recevoir une deuxième fois. C'est avec grand plaisir que je réponds présent. En ce qui concerne l'Irak, donc l'histoire remonte à pratiquement à l'après première guerre du Golfe, donc après que Saddam soit chassé du Koweït. Il y a eu cette période, donc entre cette période-là, donc 91 et 2003, où Saddam, qui était donc le représentant du Baas, mais le représentant aussi de la minorité sunnite en Irak, combattait l'islam politique très durement, ça veut dire emprisonnement, assassinat, et tout ce qui va avec, que ce soit l'islam politique donc sunnite ou chiite.
Et rappelons par ailleurs que le parti Baas est un parti laïque à l'origine, inspiré un peu du nassérisme, enfin bon,
Oui, tout à fait.
Il y avait une cohérence historique là-dedans.
Le parti Baas, donc c'est un parti évidemment qui a un dogme laïque, qui a même été fondé par un chrétien, par un chrétien de Rome, Michel Aflaq, qui a fini ses jours ici à Paris après avoir été rejeté par le Baas syrien et par le Baas irakien. Mais bon, fermons cette parenthèse, parce que le Baas, en tout cas, même si c'est un parti laïque, a été utilisé par les Alaouites en Syrie et par les sunnites en Irak, qui sont finalement des minorités. Donc le facteur religieux était toujours présent, même si le vernis était laïque, on va dire.
Donc le parti Baas était investi majoritairement par les sunnites, qui se servaient de ce vernis laïque pour assurer leur domination sur un Irak majoritairement chiite, démographiquement en tout cas.
Tout à fait, et aussi par les chiites, parce que Saddam, pendant la guerre avec l'Iran, il a utilisé la chair à canon de l'armée irakienne, c'était aussi les chiites. Mais pour revenir à l'islam politique donc, que Saddam a combattu pendant toute sa carrière, puis il a vu qu'il y avait un potentiel du retour du religieux dans la politique, et donc il a ouvert des brèches. On a vu qu'il a mis Allahu Akbar sur le drapeau. On a vu qu'il tolérait de plus en plus cette idée de salafisme au sein des institutions, qui commençait petit à petit à revenir, mais toujours donc sous le joug du gouvernement. Il arrivait à le contrôler. Puis bon, 2003, chute de Saddam, l'armée irakienne dissoute, et c'est à ce moment-là qu'on a les premiers djihadistes qui commence donc étranger, donc Zarqawi, le père spirituel de l'État islamique, à défaut d'être le fondateur, parce qu'il est mort avant la fondation de l'État islamique d'Irak, arrive au Kurdistan irakien, et particulièrement dans la région de Halabja.
Donc, ils arrivent d'où ?
D'Iran. Parce que les Américains avaient déjà intervenu en Afghanistan, donc en 2001, Al-Qaïda s'est éparpillé, tout le commandement d'Al-Qaïda est passé en Iran, voire avec leur famille. Zarqawi ne faisait pas partie proprement dit d'Al-Qaïda parce que c'était un voyou au regard de Ben Laden. C'est quelqu'un qui avait un passé criminel, qui a passé du temps en prison en Jordanie, parce qu'il est jordanien, pour des faits de droit commun, avant de se radicaliser, on va dire, en prison avec un mentor qui est Makdisi, qui est toujours vivant, qui a toujours pignon sur rue en Jordanie. Et donc, à ce moment-là, Zarqawi quitte l'Afghanistan, passe par l'Iran, comme pas mal de commandants d'Al-Qaïda.
C'est amusant parce que c'est contre-intuitif que tant de commandants sunnites qui vont ensuite faire la guerre si durement aux chiites, aux minorités, ou aux majorités d'ailleurs chiites, passent par le pays absolument du chiisme politique qu'est l'Iran et que l'Iran les laisse passer. Quoi.
Tout à fait, mais bon, là on rentre dans les zones grises de l'Orient. Hein. Vous savez, on parlait de Saddam. Saddam, il a déplacé tous ses MiG-29 en Iran, hein, quand les Américains ont intervenu pour sauver son aviation. Puis les Iraniens ont gardé les avions. Voilà, donc ça fait partie de la zone grise de l'Orient qui est tellement loin du on va dire de l'esprit cartésien du noir et du blanc. Il y a toujours une zone de flou. Et si vous voulez, on peut rentrer dans le détail. Les premiers à féliciter les Iraniens après la révolution islamique, c'était Arafat, donc l'OLP palestinien qui est normalement aussi laïque, et les frères musulmans, sunnites. Voilà. Et donc, pour les Iraniens, au tout début d'Al-Qaïda, les relations n'étaient pas mauvaises. Hein. Les relations étaient même cordiales. À une certaine époque, il n'y avait pas cette animosité, en tout cas, telle qu'on la voit aujourd'hui entre sunnites et chiites. Et qui est le facteur qui a fait basculer les choses ? Bah, c'est ce même Zarqawi dont on parle. Parce que Zarqawi arrivait au Kurdistan irakien, accueilli par un groupe qui s'appelle Ansar al-Islam, donc les premiers djihadistes irakiens qui étaient kurdes. Al-Abja, la ville qui a été gazée par Saddam, donc on voit le cheminement. Donc Zarqawi accueille...
Donc le Kurdistan, rappelons que Saddam a donc gazé très littéralement des zones, des villages...
Et
c'est ces zones-là qui ont fait le ferment des groupes djihadistes...
Premier groupe djihadiste irakien.
Qui allaient être les points de chute des djihadistes qui venaient d'Afghanistan, en passant par l'Iran.
De Zarqawi particulièrement, et de son groupe, un tout petit groupe. et qui sont en fait ceux qui ont posé les fondements, on va dire, de l'État islamique d'Irak. Et Ansar al-Islam, en soi, a fait partie de cette alliance qui a créé, après, avec d'autres factions, petites factions djihadistes irakiennes et les clans sunnites, l'embryon de l'État islamique d'Irak qui a été créé en 2006, donc après la mort de Zarqawi. Et donc là, on comprend la complexité de la chose et qu'on rajoute à cela la dissolution de l'armée irakienne dont on parlait, le début de la résistance irakienne à l'armée américaine, et puis pas mal des figures, pour faire vite, de ces figures de la résistance ont été mises en prison. Et c'est dans ces prisons, donc la prison de Bouka, la prison d'Abu Ghrib, que ces gens se sont radicalisés, étaient en contact avec des gens encore plus radicaux qu'eux, qui appartenaient à des filières d'Al-Qaïda. Et c'est là que le commandement, en tout cas le premier commandement, on va dire, de l'État islamique d'Irak, a vu le jour.
Et c'est une sorte de melting pot, une sorte de mélange entre donc des anciens commandants de l'armée irakienne, donc défaite, dissoute, cet embryon de Zarqawi qui vient d'Afghanistan, etc. Et puis d'une manière générale, toute une masse de la population qui vit pas très bien l'invasion américaine, parce que on sait très bien qu'il y avait pas mal de raisons de pas très bien la vivre cette invasion américaine. Donc c'est tout cela qui se rencontre dans les prisons américaines d'Irak. Et c'est à ce moment-là que ça se structure, ou est-ce que ça se structurera plus tard ? C'est-à-dire, qui se passe à ce moment-là, quoi ?
À ce moment-là, on va voir une vraie structuration, en tout cas, du commandement. Mais avant ça aussi, on avait déjà Zarqawi qui voue allégeance à Ben Laden, et Ben Laden qui accepte cette allégeance sous le nom d'Al-Qaïda en Mésopotamie. Et là, on voit que et pourquoi Zarqawi est important ? Parce que Ben Laden déjà l'a accepté, alors qu'il le refusait, et de deux, parce que Zarqawi est devenu à ce moment-là le mouton noir d'Al-Qaïda. Parce que pour Zarqawi, pour faire court aussi, pour lui, combattre l'ennemi proche donc, et les chiites était prioritaire à combattre les Américains. D'accord. Et donc c'est Zarqawi qui a mis le feu sur la guerre, on va dire, sectaire entre sunnites et chiites, parce que Zarqawi voulait mobiliser les sunnites.
D'accord, donc en quelque sorte, donc il y a ce premier point de chute, il y a cette première structuration. Al-Qaïda se dit très bien, on va annexer ça, enfin comme Al-Qaïda l'a fait depuis la fin de l'Afghanistan, c'est-à-dire on fait des filiales, on annexe des filiales, très bien.
Mais pas de gaieté de cœur.
D'accord, ouais. Mais bon, en se disant que c'est quand même, c'est là que sont les Américains, et Zarqawi et son groupe peuvent faire un pivot dans la lutte contre les Américains. Et là, ce que vous nous dites, c'est que la surprise du chef, en quelque sorte, ou en tout cas la déception du point de vue d'Al-Qaïda, c'est qu'en fait, il s'avère que la cible prioritaire d'Al-Zarqawi n'est pas les Américains, mais c'est les chiites irakiens, ce qui n'était pas du tout, en tout cas, la stratégie qu'imaginait Al-Qaïda.
C'est pas leur dogme, c'est pas leur dogme, parce que pour Al-Qaïda, on va dire, ils considèrent les chiites comme des gens égarés qu'il faut récupérer. Pour Zarqawi, pour le dogme en tout cas de l'État islamique, les chiites ne sont pas des musulmans, et donc leur sang est illicite. Donc il y a une vraie différence de traitement, on va dire, du sujet.
Alors combien de temps on reste dans une sorte de flou, c'est-à-dire de, bon bah c'est Al-Qaïda en Mésopotamie, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, mais il reste
jusqu'en 2006. Jusqu'en 2006, donc 2006 on a la création de l'État islamique, donc après la mort de l'État islamique d'Irak, après la mort de Zarqawi, il y a eu ce qui a été appelé Hilf al-Mutayyibin.
Rappelons peut-être simplement les circonstances de la mort d'Al-Zarqawi.
Ah, Zarqawi a été tué par les forces spéciales américaines, il a été localisé, neutralisé, et pas que lui et son second. Donc c'était une opération donc de l'armée américaine.
En 2006,
ouais.
Et donc comment est-ce que ça se restructure une fois que la tête, le fondateur est éliminé? Comment est-ce que ce commandement autour se restructure?
Bah ça c'est la force des mouvements djihadistes, hein. Ça veut dire que le leadership n'est jamais personnifié. Même si une personne prend une aura démesurée comme Zarqawi ou comme Baghdadi ou comme Ben Laden, on voit très bien qu'après pour des raisons très pragmatiques, il y a toujours d'autres personnes qui prennent le relais pour des raisons pragmatiques mais aussi pour des raisons on va dire religieuses. Parce que la personnification chez les djihadistes est interdite. C'est pour ça, par exemple, qu'à la différence des autres forces présentes dans cette zone du monde ou ailleurs, d'ailleurs, on ne voit pas des gros portraits de Ben Laden quand ils ont l'emprise territoriale ou des défilés militaires avec les portraits de Baghdadi. Voilà. Et donc, mais ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que l'État islamique d'Irak n'est pas que Al-Qaïda. L'État islamique d'Irak, c'est Al-Qaïda plus d'autres. Donc les clans sunnites, d'autres factions aussi.
Donc les locaux, quoi.
Donc des locaux. Donc avec évidemment un appel d'air qui appelait les djihadistes à ce moment-là, donc étrangers, qui étaient plutôt du monde arabe, hein, donc à venir, parce qu'on n'avait plus le théâtre, on va dire, afghan qui était ouvert, et donc l'Irak a fait un sorte d'appel d'air, et les circonstances aussi régionales ont aidé à l'acheminement de ces combattants. À l'époque, par exemple, la Syrie d'Assad, hein, d'Assad fils, l'actuel président, a beaucoup facilité le passage de djihadistes par son territoire pour aller rejoindre la guerre en Irak, la guerre contre les Américains. Mais en même temps, parce que le calcul syrien à l'époque était, si les Américains sont embourbés en Irak, ils ne vont pas venir nous chercher des problèmes ici. Il y a même les Américains, par exemple, en 2008, ils ont fait une opération à Deir ez-Zor, force spéciale, héliportée, en territoire syrien pour éliminer des commandants d'Al-Qaïda qui faisaient partie de cette logistique entre la Syrie et l'Irak. Donc les preuves sont là, ce n'est pas juste un...
Mais alors comment est-ce que ça se goupille à ce moment entre ces deux tentations, entre ces deux orientations qui sont d'une part la guerre contre les Américains, qui sont présents, qui sont la force occupante, et en même temps la guerre contre les chiites. Donc c'est cette mouvance à la fois djihadiste et en même temps de clans sunnites, peut-être plus implantés localement, moins dans une idéologie proprement djihadiste internationale. Comment est-ce que ça s'arbitre entre les deux et à quel moment est-ce qu'on passe vraiment de la lutte contre les Américains à la perspective de guerre civile contre les chiites?
Ça va de pair, en tout cas. Ça va de pair. Les Américains sont attaqués, ils essuient beaucoup de pertes. Bataille de Fallujah, voilà, c'est une grande bataille en 2004. Et ceux qui commandaient face aux Américains, c'était Zarqawi lui-même, hein. Et donc, avec des combattants syriens, saoudiens, mais surtout irakiens, on parle souvent des étrangers, mais le fer de lance, en tout cas, de toute l'ouvrance djihadiste, ce sont les locaux, hein, in fine. Donc ça allait de pair. Mais à un certain moment, comme toute armée occidentale, les Américains étaient moins, on va dire, en première ligne, donc moins accessibles. Et donc, ceux qui étaient accessibles, ce sont les forces supplétives. Les forces supplétives, que ça soit...
Donc la nouvelle armée irakienne.
Donc la nouvelle armée irakienne, la police et même les supplétifs sunnites, parce que si vous voulez, on peut en parler. Ça veut dire la montée en puissance, on va dire, de l'État islamique d'Irak qui s'est acté en 2006. Le fait que ça soit contenu, ça revient surtout, hein, évidemment, aux Américains, à la force militaire américaine, mais surtout au clan sunnite.
Parce que c'était les clans sunnites qui, en même temps, étaient de leur côté, mais en même temps s'assuraient qu'ils ne prennent pas trop de position, trop de puissance non plus.
C'est pas ça. C'est que les Américains, ils ont réussi, on va dire, à faire un tour de force à un certain moment et à mobiliser des clans sunnites. Donc mobiliser des clans sunnites en leur disant « battez-vous contre Al-Qaïda, contre l'État islamique en Irak, et on va s'assurer que... il y aura un meilleur partage du pouvoir en Irak face aux chiites, vous aurez les réformes que vous voulez. Les sunnites regardaient beaucoup du côté du Kurdistan qui avait une semi-autonomie depuis le début des années 90 quand même. Et donc il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites.
Donc pour rééquilibrer, puisque rappelons que les Américains ont remplacé Saddam Hussein par un gouvernement très, très corrompu et très majoritairement dominé par les chiites, ce qui était aussi une des raisons du mécontentement des clans sunnites. Donc c'est à ce moment-là, il y a eu une espèce de deal qui était passé avec les clans sunnites de... arrêtez d'être tenté par Al-Qaïda, combattez-les plutôt et vous y trouverez votre compte du point de vue du partage du pouvoir du gouvernement central.
Et beaucoup d'argent a été mis sur la table. Voilà, ça c'est la manière de faire des Américains. On vient, beaucoup de billets, on essaie de régler les problèmes comme ça. Bon, bah, ça a marché. Ça a marché un temps. Ceux qui ont chassé les djihadistes des villes, ce sont les clans sunnites. Et les djihadistes, donc l'État islamique d'Irak, se sont retrouvés dans une période de la période du désert. Hein. Même ils disent que c'est la période du désert, donc la période de la vache maigre, en 2009, où ils étaient totalement éjectés des villes, très faibles. En 2010, quand Baghdadi, feu Baghdadi maintenant, avait pris les rênes de l'État islamique, il était tellement peu considéré par les Américains que la prime sur sa tête a été baissée. Donc c'est un prof de théologie pour eux, rien de plus. Quand il a pris après Abu Omar, donc Abu Omar, pareil, était tué par les Américains. Son second avec lui, donc le commandement de l'État islamique était totalement décimé. Et tout le monde disait que l'État islamique, c'est fini. Donc d'ailleurs...
Donc ça, là, on est en 2009-2010.
2010. 2011, Obama, il dit on se retire.
Parce que, et par ailleurs, ça correspond, enfin, ça correspond aussi au moment, si on essaie de replacer ça à un moment plus large, ça correspond aussi juste après le surge en Afghanistan. Donc on comprend que les Américains étaient devant réinjecter massivement des forces en Afghanistan à ce moment-là, devaient, bon, libérer un peu de la place, et ils étaient contents, en tout cas, de penser que l'Irak, pas c'était fini, mais en tout cas, la menace djihadiste s'éloignait, quoi.
Oui, en tout cas, il y a toujours eu un vaste communicant hein, pour les forces américaines, en tout cas Afghanistan et Irak, hein, vous faites bien de le rappeler. Et effectivement, donc 2011 aussi, c'est les révolutions arabes qui commencent.
Alors juste à ce moment-là, au moment du désert, etc., quelle est la relation de ces groupes djihadistes-là avec Al-Qaïda ? Est-ce qu'ils sont encore dans l'héritage de Zarqawi, c'est-à-dire on vise les chiites, ou est-ce qu'ils sont dans une proximité plus intense, disons, avec Al-Qaïda, avec l'idée que c'est les Américains?
À ce moment-là, ça j'ai oublié de le dire, faites bien de rappeler. Donc, encore une fois, l'État islamique d'Irak, Al-Qaïda, ce qui était Al-Qaïda en Irak, était une composante de l'État islamique en Irak. Donc techniquement, l'État islamique d'Irak n'avait plus d'allégeance à Al-Qaïda. Et même Zawahiri lui-même, en 2007, il avait dit « on n'a plus de présence en Irak ». L'État islamique d'Irak, ce n'est pas Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda, en gros, s'est dissoute en 2006 dans ce qui est devenu l'État islamique d'Irak. Mais ça, c'est aussi un grand débat au cœur même des mouvances djihadistes en termes d'allégeance, parce que l'État islamique dit « je suis un État, donc je n'ai pas à avoir allégeance à une organisation ». Et Al-Qaïda dit « même si nous, on a accepté cette alliance en Irak et la création de cet État islamique, moralement, on va dire, vous nous devez toujours cette allégeance. » Ça, c'est un grand débat hein, au sein des groupes djihadistes. Mais en tout cas,
c'est-à-dire, est-ce que cette traversée du désert a éliminé le moment de l'allégeance de l'État islamique à Al-Qaïda ou pas, quoi ?
Est-ce que oui, parce qu'en dès 2006,
c'est-à-dire, ce qui pose la question de est-ce que après l'État islamique s'est recréé à partir de rien ou est-ce que il est quand même l'héritier de cette période de 2000-2010, quoi ?
Il est, en tout cas. Dès la création de l'État islamique en 2006, on est devenu dans une dynamique, en tout cas, d'État. Donc, ils étaient plus grands, on va dire, qu'Al-Qaïda. Et donc, eux, pour eux, c'était de la, on va dire, par politesse, ils consultaient Al-Qaïda. Mais il n'y avait plus de, on va dire, hiérarchiquement parlant, il n'y avait plus de lien. Mais en tout cas, c'était... Et ils ont appliqué leur politique en Irak comme ils voulaient. Hein. Ils ne prenaient plus de directives, en tout cas, d'Al-Qaïda. Et dès qu'il y avait, des tentatives d'Al-Qaïda de revenir en Irak, surtout aussi à travers le facteur kurde, donc dans l'islam qu'on a cité avant, l'État islamique tuait ces tentatives très vite, très vite. Et d'ailleurs, la résurgence de l'État islamique en Irak, donc avec les révolutions arabes, Al-Qaïda n'y est pour rien.
Bah, alors reprenons là, donc c'est un peu là qu'on s'était arrêté. Donc 2011, donc on voit l'État islamique qui existe depuis 2006 est de parti en lambeaux sous l'effet du fait que les clans sunnites sont passés du côté des Américains. L'allégeance à Al-Qaïda est lointaine, mais de toute façon, Al-Qaïda s'en fiche, puisque l'État islamique n'est pas grand-chose à ce moment-là. Et là, là-dessus, arrivent, donc, à partir de 2011, les printemps arabes, les révolutions. Et là, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça alimente cette espèce de ferment, de levain, en quelque sorte, qui était resté là depuis 4 ans, en quelque sorte?
Bah, en fait, c'est que l'État islamique n'avait pas disparu. Donc, ils étaient encore là, dans le désert, d'Anbar... avec toute une logistique, hein, toute une logistique financière dans des villes comme Mossoul, des constructions financières pour se financer, pour continuer à exister.
Donc ils avaient une existence, mais souterraine, quoi.
Une existence souterraine très affaiblie, très très affaiblie.
Et ils étaient nombreux à cette époque-là ?
Moi, je ne donnerai pas de chiffres, parce que bon, tous les chiffres sont à l'appel, mais en tout cas, on peut imaginer qu'ils n'étaient pas très nombreux, d'accord ? Puis... il y a eu le coup de génie, entre guillemets, de Baghdadi. C'est dès que la révolution a éclaté en Syrie, il s'est dit, voilà, je prends une partie de mes hommes, donc surtout des Syriens, qui se battaient dans ses rangs, et je vais les envoyer en Syrie via les canaux logistiques qui sont préexistants, hein, qu'Al-Qaïda utilisait, et on va essayer de se greffer à ce qui se passe en Syrie, avec la moitié de notre argent. Ce qui n'est pas beaucoup. Et donc, à ce moment-là, on a vu Joulani, en l'occurrence, qui a formé le front Al-Nusra, partir avec plusieurs autres Syriens, quelques Irakiens, pour former un groupe. Et c'est là que le Front al-Nusra a été formé, donc en Syrie. Et il y a eu les succès qu'ils ont eus, hein, que ce soit face à l'armée syrienne, face aux autres groupes rebelles, jusqu'en 2013 où il y a eu la grande friction, là on ne va pas rentrer aussi dans les détails. Et Joulani, tout en admettant qu'il était envoyé par Baghdadi, a dit « moi je vais vouer allégeance à Al-Qaïda », ça revient à ce qu'on disait, et je n'ai plus rien à voir avec Baghdadi. Et ça, les rangs de Nusra se scindent en deux, et on a la création de l'État islamique en Irak et au Levant, et Nusra qui devient la filiale de facto d'Al-Qaïda en Syrie, donc ça va de manière parallèle.
C'est fascinant. Donc ce groupe, cet investissement fait par Baghdadi sur la Syrie, sur le bazar en quelque sorte qui va se passer en Syrie, fermente, prospère, et là, à l'intérieur de cette sous-branche donc de l'État islamique qui prospère, il y a une scission. D'un côté, c'est le Front al-Nusra qui va redevenir, dans le giron d'Al-Qaïda. Mmh. Et de l'autre côté, il va y avoir la scission, mais qui du coup va permettre à l'État islamique de devenir transnational, de plus être limité à l'Irak, mais d'être sur cette frontière irako-syrienne.
Totalement, parce que, encore une fois, là, la révolution arabe arrive en Irak. Les clans sunnites dont on parlait ne sont pas contentés. On a un premier ministre, donc Maliki, qui est très sectaire.
Et les gens recommencent. Les promesses américaines n'ont pas été tenues.
Voilà, les promesses américaines ne sont pas tenues. Les gens redescendent dans la rue, dans des villes comme Ramadi ou d'autres villes. Ils font des sit-ins pacifiques.
Dans la lignée des printemps arabes.
Enfin, dans la lignée des printemps arabes, et ils se font tirer dessus.
Par les chiites.
Par l'armée.
Voilà. Même contrôlé par le gouvernement chiite.
Totalement. Et donc à ce moment-là, l'État islamique revient et dit écoutez, vous faites tirer dessus, on va revenir, on va vous protéger. Donc les gens, ils disent non, merci. Et donc l'État islamique dit, mais si, on va venir, on va camper autour de vous la nuit, comme ça on sait qu'il n'y a pas d'attaque la nuit. Et c'est comme ça que c'est revenu, c'est comme ça que l'État islamique est revenu dans les villes,
comme service d'ordre de manifestation.
Oui, voilà, comme service, si, tu veux, si vous voulez. Et donc du coup, on a vu par exemple des villes de Ramadi ou Fallujah réinvesties par les djihadistes.
Qui
s'en étaient fait virer 5 ans avant. Et il y a eu un mouvement, et ça moi j'ai des vrais témoignages, c'est au cœur de mon livre en tout cas, des vrais témoignages de gens qui disaient, donc il faut imaginer aussi que ce sont des jeunes, donc qui n'ont pas les engagements que leurs pères ont eus, que ce soit avec les Américains, que ce soit avec la nouvelle administration irakienne dominée par les chiites. Donc, ils voulaient aussi faire changer les choses. Et donc, ces gens-là, ils disent, bon, ben, si l'État islamique, les djihadistes viennent, et ces gens, sont nos voisins de quartier, etc., ils viennent et ils virent cette armée corrompue pour qu'on puisse changer les choses, pourquoi pas? Et donc, l'État islamique recommence à revenir dans des villes emblématiques, Fallujah, Ramadi, d'autres. Les gens qui les ont accueillis plutôt dubitatifs, dès qu'ils ont commencé à se faire bombarder par l'artillerie lourde, ils ont dit, ben voilà, ils vont nous protéger. Et donc, des gens qui n'étaient pas du tout aussi dans la mouvance djihadiste ont commencé à les rejoindre pour défendre leur quartier, leur ville, etc. Et donc, c'est là que ça a commencé à gonfler. Ce qui est très intéressant aussi à dire, c'est très peu dit, hein, mais... C'est à l'aune de la guerre en Syrie et de l'expertise militaire gagnée en Syrie et l'apport de combattants étrangers, l'apport de combattants syriens expérimentés. Je vous donne des exemples très concrets, par exemple en termes d'usage de missiles anti-chars. Les Irakiens ne savaient pas faire. C'est l'apport humain syrien qui les a aidés en Irak.
Donc c'est littéralement ceux de l'État islamique ou de l'ancien Front al-Nusra qui savaient déjà comment taper des chars avec des missiles anti-chars en Syrie qui reviennent en Irak de là où ils sont partis et qui ont dit bon bah nous on a appris, ouais. Vous allez voir, ça va bien marcher aussi avec ce l'armée
irakienne. Oui, c'est un peu ça et un peu les gens qui ont fait défection de l'armée syrienne aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup et tout le monde sait utiliser les armes, donc
fait défection de l'armée syrienne, qui ont rejoint les rangs de l'opposition voire des djihadistes ensuite, et qui du coup sont passés en Irak,
parce qu'il y a un cheminement aussi. Ça veut dire, au début c'est l'opposition, puis les gens se retrouvent dans une faction plutôt islamiste, puis se radicalisent pour X raisons, sont dans les rangs de l'État islamique. Et puis cette expérience humaine, elle est utilisée de part et d'autre. Et donc, à ce moment-là, l'expertise de la guerre syrienne, on va dire, les a aidés en Irak. Puis en Irak, ils ont réussi, par exemple, avec la prise de Mossoul, ça leur a permis, donc juillet 2014...
C'est ce que j'allais dire. Quel est le moment, en quelque sorte, de balai masque? C'est-à-dire où on passe de cette protection théorique de la population civile sunnite qui se fait réprimer par le gouvernement chiite contre ces pulsions démocratiques type printemps arabe. De quel moment est-ce qu'on passe de ça à, en fait, on est, rappelez-vous, on est l'État islamique, on veut faire un État, on va prendre des villes et on va se faire une armée.
Il n'y a pas eu de période où ils étaient cachés. Ils ne se sont jamais cachés, en fait, de qui ils sont ou de leur...
Non, mais ils sont réintroduits un peu subtilement, ce que vous
nous décrivez. Ils sont réintroduits à la faveur des événements. C'est-à-dire, tout le monde savait que c'était l'État islamique. C'est-à-dire, même quand Mossoul a été prise... Il y a même des confrères et tout, ils disaient non, c'est pas possible que l'État islamique seul prenne Mossoul. Il a forcément profité d'une alliance avec des rebelles, des contestataires. Alors que finalement, si, c'est l'État islamique qui a pris Mossoul, mais la ville était tellement prête.
Oui, c'est ça.
La ville était tellement prête, ça veut dire au niveau de la population, et tellement, elle était tellement, on va dire, opprimée, et elle en avait tellement marre de la corruption, etc., etc., qu'ils se sont dit peut-être que l'État islamique est mieux que les forces gouvernementales. Et puis après, l'État islamique, il est revenu. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'État islamique a pu prendre une ville de 2 millions avec quelques centaines de combattants. Après, là aussi, il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de détails. On sait que les Kurdes du Kurdistan irakien étaient au courant avant que l'attaque n'arrive, qu'ils ont retiré leurs représentants des partis politiques kurdes. Ça a créé une sorte de panique chez l'administration irakienne. Ils ont dit, si les Kurdes partent, c'est qu'il y a un truc... quelque chose qui se passe, ils sont partis. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs détails qui ont mené en tout cas à la prise de Mossoul aussi facilement. Mais en tout cas, la population était prête à cela.
Et alors, la prise de Mossoul, parce qu'on en parle toujours comme de ce moment symbole, et à bon droit, vous nous l'expliquez, mais puisqu'en fait, on n'en parle jamais, ça s'est passé comment? Puisque vous nous dites, c'est quelques centaines de combattants qui ont pris une...
Ouais.
Mais je veux dire, concrètement, ils n'en ont pas fait le siège, ils n'en ont
non.
pas... Je veux dire, même à l'échelle de la ville, ça se passe comment, une organisation djihadiste qui prend contrôle d'une ville?
En tout cas, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et là, pareil, moi, j'avais des témoignages de première main. C'est-à-dire, il faut se rappeler, la première ville que l'État islamique a pris en Irak, c'était pas Mossoul, c'était Fallujah, en janvier 2014, quand même. C'est-à-dire, plusieurs mois avant. Puis il y a une dynamique vers Ramadi, puis il y a une dynamique vers d'autres villes. Et je sais que...
Fallujah, qui paraît, on peut le rappeler, mais Fallujah était un bastion de Saddam,
ouais.
Historiquement. Donc on mesure aussi la continuité à travers des endroits, enfin de la géographie.
Oui, bien sûr.
C'était les bastions de Saddam qui ont résisté.
Oui, c'est les bastions sunnites. C'est les bastions sunnites. Et je sais, pour revenir à Mossoul, qu'il y a eu une vraie, on va dire... stratégie militaire de la part de l'État islamique. Et ça, encore une fois, j'ai des témoignages de première main, c'est que la veille, il y a eu une attaque à Samarra. Donc Samarra, c'est aussi une grande ville où il y a une vraie présence chiite, où il y a des mausolées chiites très importants qui ont déjà été attaqués à l'explosif par les djihadistes. Donc, grosse valeur symbolique. Donc il y a eu une attaque à Samarra, contrôle d'une partie pendant un peu moins d'une journée. Et puis, hop, les djihadistes se retirent. Donc là, à ce moment-là, je demande à un de mes contacts qui était, je dis, pourquoi, pourquoi vous êtes parti? Parce que bon, c'est-à-dire, vous étiez là, vous n'êtes plus resté. Il me dit, parce que c'est pas là que ça se joue. Bon, ça veut dire, genre, tu verras la suite. Et effectivement, c'était une diversion, et le gros morceau, c'était en fait Mossoul.
Donc attirer les forces gouvernementales à Samarra pour défendre Samarra, d'autant plus facilement que c'était une ville importante pour les chiites, et du coup, particulièrement libérer Mossoul pour ensuite que ça puisse tomber plus facilement.
Voilà, tout à fait. Et avec un effort de propagande qui est venu avant, des longues productions sur les capacités, en tout cas, de l'État islamique, qui, à ce moment-là, était vraiment, encore une fois, on est dans le contexte où ils ont une emprise en Syrie, ils ont des capacités, il n'y a pas de frontière entre les deux pays. Donc des capacités vraiment d'attaque, on n'est pas dans l'assassinat et l'explosif, hein. C'est d'attaque, de colonnes, de raids dans des villes, de camions piégés avec des tonnes d'explosifs, c'est vraiment, on n'est pas du tout, on est vraiment dans du militaire, je dirais même pas du paramilitaire, hein, avec une capacité d'artillerie, de chars, on est dans quelque chose de et l'expérience surtout, l'expérience qu'ils ont eue en Syrie. Et donc ça a aidé. Donc ce qu'ils ont fait à Mossoul, la prise de Mossoul, puis après les a aidés, ça a fait un effet sur une emprise totale sur l'Est syrien, qui n'était pas encore complètement entre la main. Donc en gros, c'est les Hummers qu'ils ont pris à Mossoul qui ont permis de stabiliser l'emprise à Deir ez-Zor. C'est pour vous expliquer comment ce théâtre, en tout cas, il est unique. C'est un seul théâtre, Syrie-Irak, jusqu'à aujourd'hui. عيخ صواني شموع خاف ان يمر بالعقد
وش العقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع جابك جون ونتك تبجي بدنا مرجو طيفك كمان شذا فوق السماء مرفوع بالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع خطار هن الفار نالك صوان شمو فطار عنا الفار نالك صوان شمو بلك تفز بالليل دافن بصيص الامل سهر نجوم السهر والريل فات وجزر وملك شغل بالريل حط النماق الجمر زود سعير الويل ذوب شموع الوصل فرهد حباب الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر منصور خطار عنا الفار نعرف صوان شمو خطار عنا الفار نعرف صوان شمو.
Alors, après, on entre évidemment dans l'épisode du califat, dont on va parler, dont on a déjà parlé, on va pas le faire mois par mois, parce que c'est impossible, c'est compliqué, puis de l'intervention de la coalition à partir de l'été 2014 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on peut rappeler qu'on est encore en plein dans l'opération Chammal pour la France, même si les effectifs et les engagements sont décroissants, on en reparlera. Mais simplement pour rester sur ce moment de l'État islamique et de ces quelques mois où il avait vraiment une emprise, comment est-ce qu'il en profite pour s'exporter et pour s'implanter ailleurs, ce qui va nous permettre de commencer à faire le lien évidemment avec le Sahel. Alors évidemment, l'État islamique commandite et organise des attentats, dont les plus proches de nous sont évidemment ceux de 2015 à Paris, mais en ce qui concerne, disons, ses bases, ses vraies bases au-delà de ses frontières, où est-ce qu'il s'implante et dans quelle mesure? Évidemment, il y a eu des cellules terroristes en France, on le sait, etc., mais on peut pas dire que Daesh avait une emprise territoriale très importante sur le territoire français. Enfin, il n'est pas dépendant.
Non, il faut évidemment faire la différence entre ce qui est emprise territoriale et capacité de guérilla ou d'insurrection et les capacités terroristes d'attentat qui n'ont pas un lien direct avec emprise territoriale ou pas.
Donc, où est-ce qu'elles sont ces emprises territoriales au-delà de l'Irak et la Syrie? Où est-ce que, on en a parlé un peu du Sahel évidemment, on a déjà parlé du Sahel évidemment, mais quels sont les endroits où l'État islamique se délocalise en quelque sorte?
Déjà, on va commencer par rappeler quelque chose qui a été souvent dit que la perte donc, du califat à cheval entre la Syrie et l'Irak a fait que l'État islamique s'est replié sur d'autres territoires. Ça, ce n'est pas du tout vrai. Parce que l'État islamique, même avant la perte de son califat, était toujours dans une logique d'expansion. C'est son ADN. Première tentative, très parlante, dont on a les preuves, évidemment, c'est la Libye. Donc moi-même, j'étais en contact avec des Libyens qui se battaient dans les rangs de l'État islamique en Irak et au Levant, avant l'État islamique. Ils avaient une unité formée que de Libyens. Et d'ailleurs, on parlait du 13 novembre, Abaoud était toujours greffé avec eux, avec ces Libyens, je ne sais pas pourquoi. Finalement, création du califat, l'unité est dissoute, donc de combattants libyens qui se battaient en Syrie, et ces Libyens renvoyés chez eux, renvoyés vers la ville de Derna, pour planter l'embryon de l'État islamique en Libye. Bien avant que eux-mêmes cela ne soit envoyé en 2014, dès 2013, un des plus grands religieux de l'État islamique, qui est de nationalité bahreïnie, a été envoyé à Sirte en 2013 pour faire des prêches. Les prêches existent toujours sur vidéo, ou sur YouTube ou ailleurs. Donc on voit que dès 2013, ils avaient des visées. 2014, la tentative de Derna échoue à cause d'Al-Qaïda. Parce que Al-Qaïda, qui était déjà à Derna, les a chassés. Parce qu'ils ont vu que le potentiel danger de l'État islamique était bien réel. Et on sait qu'à cette époque-là, la guerre avait déjà commencé entre les deux groupes en Syrie. Donc chassés de Derna, ils se replient sur d'autres régions. Ils se replient sur la côte. On sait que Sirte, il y a eu la bataille de Sirte. Hein, on fait un peu rapidement l'histoire. Mais on sait aussi que Baghdadi avait envoyé un de ses bras droits, qui était à l'époque le gouverneur ou le wali de Salah ad-Din en Irak, en 2014, hein, en plein guerre contre la coalition, il l'a envoyé jusqu'en Libye pour rectifier le tir à Derna. Et on sait qu'Abu Nabil, donc Al-Anbari, a été tué au sud de Derna par les Américains en 2015. Donc là, on parle de choses étayées, on parle d'une visée expansionniste, en tout cas de l'État islamique sur la Libye, depuis au moins 2013. Et comme pour le cas libyen, il y a eu les autres cas. Donc il y a eu le cas afghan, où ils ont retourné un des plus grands commandants militaires des talibans, qui leur avouait allégeance avec hommes et bagages. Ils ont eu une emprise à Nangarhar et ils continuent aujourd'hui à avoir des capacités donc, d'attentats et d'attaques au cœur même de Kaboul jusqu'à là, jusqu'au moment là où on parle, que ce soit à Kaboul, à Jalalabad ou ailleurs.
On peut rappeler par ailleurs qu'on avait fait une émission largement avec Adam Bachko sur ce thème-là, où il nous avait dressé ce tableau, alors c'était il y a quelques mois, et où il y avait clairement une montée en puissance de l'État islamique et où clairement l'État islamique devenait un nouvel acteur dans le jeu, probablement moins conciliant que les talibans. Enfin, les relations entre les deux sont compliquées, mais l'État islamique devient un nouvel acteur dans le jeu afghan, et ça depuis, ça fait 4-5 ans au moins.
Et paradoxalement, parce que l'histoire elle est faite comme ça, aujourd'hui ceux qui arrivent à contenir l'État islamique, ce sont les talibans. Et d'ailleurs, ça fait partie des cartes, on va dire, entre les mains des talibans dans les négociations avec les Américains à Doha par rapport au retrait américain d'Afghanistan. Les talibans leur disent « on va s'occuper de l'État islamique ».
Alors, parce que rappelons simplement, je vais le dire très rapidement, mais évidemment, Adam Bachko l'expliquait bien mieux que moi, c'est pas exactement les mêmes populations. Les talibans ont une emprise rurale qui est très forte, alors que l'État islamique, naturellement, progressait davantage dans les villes, dans les milieux urbains, avec des populations plus jeunes, plus connectées, etc.
Et ceux qui veulent pas des négociations. Voilà, ça aussi.
Et donc, c'est vraiment dans cette tension-là que se trouve l'Afghanistan aujourd'hui, avec un État islamique qui s'appuie sur ces populations-là, qui réussit à être maîtrisé par la, mine de rien, grande emprise des talibans. Tout ça dans un contexte de débandade, enfin pas de débandade, mais de retrait accéléré des forces occidentales. On mesure bien que d'une manière ou d'une autre, ça va pas très bien finir, mais n'anticipons pas sur l'histoire, on verra quand ça se présentera. Donc, Libye, Afghanistan...
Et puis, facteur important aussi, 2014 aussi, bien avant aussi la perte du territoire, le Sinaï, en Égypte. Donc là, on a eu le premier exemple, en tout cas, d'Ansar Bayt al-Maqdis, qui est un groupe djihadiste qui était actif au Sinaï depuis quelques années, qui voue allégeance avec armes et bagages à l'État islamique, donc un groupe entier. Donc aujourd'hui, cette faction-là, donc au Sinaï, est une des plus actives dans les rangs, dans cette myriade de groupes qui sont aujourd'hui sous la bannière de l'État islamique. Autre exemple, Mozambique, RDC, ce sont les derniers exemples.
Donc Mozambique, République démocratique du Congo.
L'État islamique a commencé à revendiquer des actions là-bas en 2019, mais ce n'est pas venu de nulle part. C'est-à-dire, il s'est appuyé sur des groupes, sur des dynamiques de rébellion et d'insurrection qui étaient déjà bien présentes sur zone. Donc ils ont travaillé sur ces dossiers.
Alors enfin, il faut ajouter évidemment le Sahel, dont on a déjà parlé, mais dont, alors, je vais renvoyer à la dernière émission qu'on avait faite ensemble. Mais il y a eu une implantation très forte de l'État islamique, et on va en reparler, mais c'est un jeu entre, encore une fois, Al-Qaïda et l'État islamique sur zone. Ça remonte à quand, ça, rappelez-nous ?
Bah, en fait, ça remonte à 2015. Donc en 2015, on a les Mourabitoun, hein, qui se scindent en deux. Donc un groupe qui rejoint Al-Qaïda, et le porte-parole, qui est Abou Walid Sahraoui, avec quelques hommes qui décident de vouer allégeance à Baghdadi. Donc on est en 2015. L'allégeance n'est pas reconnue avant 2016. Parce que, encore une fois, comme vous le rappelez, la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda était présente dans tous les esprits. Et au commandement de l'État islamique, pour faire court, considérait que Sahraoui était toujours très proche du commandement d'Al-Qaïda. Donc ils avaient peur que ça fasse une jurisprudence, une première, où un groupe leur voue allégeance, puis se dissocie d'eux pour revenir vers Al-Qaïda. Ils ne voulaient pas avoir un parallèle de Nosrabis, on va dire, ce qui s'est passé en Syrie avec Joulani. Donc ils ont tardé un an avant de reconnaître. Et puis les premières revendications du groupe sous État islamique Afrique de l'Ouest, qui englobe l'Ak Tchad, hein, bien sûr, et l'État islamique aujourd'hui au Lac Tchad, qui a des vraies emprises territoriales et une vraie dynamique, une vraie économie, hein, qui le nourrit et qui va en parallèle avec Boko Haram. Et donc le Sahel dépend de cette filiale Lac Tchad. Première revendication en 2019. Et donc, puis des attaques spectaculaires, on va dire, à Inates, Indeliman, Tessalit, Koutoukale, donc dans Niger, Mali, Burkina Faso.
Alors ça, on va en reparler, mais alors justement, puisque vous avez évoqué la chose, et qu'en est-il d'autres pays, d'autres fronts, comme par exemple le Nigeria, où on sait que Boko Haram, alors il y a toujours une actualité, enfin il y a eu particulièrement une actualité depuis quelques mois de Boko Haram. Quels sont les liens de Boko Haram avec l'État islamique, s'ils en ont, s'ils sont réels? Dans quelle mesure est-ce que Boko Haram est en quelque sorte un jalon de plus de l'État islamique en Afrique?
Boko Haram, c'est une histoire aussi particulière que j'ai aussi eu l'occasion de suivre de très près. Quand Shikao, on va dire, a voulu vouer allégeance, donc en 2015 à Baghdadi, donc le chef de Boko Haram, il y a eu une charte, en gros. Ça veut dire, parmi les clauses dans la charte, et c'est aussi dans mon livre, Shikao n'avait plus le droit d'être présent dans les vidéos, il y avait une charte de médiatique, et ils ont demandé à Shikao d'arrêter d'envoyer des petites filles en kamikaze sur les marchés, on n'attaque plus les mosquées, on s'attaque surtout à l'armée, on essaie de professionnaliser, en tout cas, entre guillemets, hein, de militariser le groupe. Et l'allégeance a été acceptée, et il y a eu un porte-parole, etc., etc. Et puis, Shikao, extrémiste qu'il est, a été considéré très extrémiste par Baghdadi, à cause de plusieurs facteurs.
C'est toujours pas un bon signe quand Al-Baghdadi vous considère comme voilà. Un troupe extrémiste, c'est qu'il est temps de s'inquiéter vraiment.
Voilà, à cause de plusieurs facteurs, parce que j'ai eu aussi l'occasion d'écouter ces audios où Shikao expliquait en gros que tous les musulmans qui sont pas dans les territoires contrôlés par son groupe, en gros, leur sang est licite. Donc, y compris la ville de Maïdougouri, qui est une très grande ville au nord Nigeria, et ça n'a pas plu à
leur sang est licite, ça veut dire qu'il est licite de les tuer.
Voilà, exactement.
Qu'il est autorisé de
les tuer. Et donc, ça n'a pas plu à Baghdadi. Et deuxième facteur, Shikao a commencé à liquider certains de ses commandants, dont certains dans une mosquée, un commandant militaire, pendant la fête, pendant une fête religieuse. Et là, c'était la chose qui a acté, en tout cas, le fait qu'il soit viré, en tout cas, des rangs de l'État islamique, et remplacé par son porte-parole, qui était le fils du fondateur de Boko Haram, Barnawi. Et tout ça, on est en 2016, hein. Donc on est encore aussi hein, en plein guerre contre la coalition.
Mais alors,
puis après, donc destitué Shikao, il est reparti avec une partie de ses hommes. Donc Boko Haram a continué d'exister à travers Shikao, une partie de ses hommes, et l'autre partie est restée du côté de l'État islamique. Et Baghdadi, reclus dans son coin à Idlib après la perte du territoire, etc., a même destitué le porte-parole et mis un autre à sa place, pour juste vous montrer que la dynamique, que l'influence était bien réelle, hein, même s'ils n'entrent pas dans les détails de ce qui se fait au jour le jour, hein, quelle attaque on fait, machin, mais en tout cas les grandes décisions stratégiques sont toujours prises par État islamique central. Aujourd'hui, l'État islamique autour du lac Tchad, c'est une des factions aussi les plus actives avec celle du Sinaï, mais c'est celle qui a une vraie emprise territoriale et une toile économique et administrative qui commence à ressembler à ce qui a été fait en Syrie et en Irak. Et Boko Haram continue d'exister, mais il est en conflit avec cette faction-là.
Donc les attaques de Boko Haram qu'on a encore vues il y a quelques semaines sont plus vraiment dans le giron de l'État islamique,
non.
Voire plus du tout. C'est reste Shikao et ses hommes qui étaient donc trop extrémistes pour l'État islamique qui font ces actes relativement isolés, en tout cas par rapport à la grande stratégie de l'État islamique. Et parallèlement, dans la même région, l'État islamique se reconstitue un bastion autour du lac Tchad, mais c'est relativement séparé.
C'est séparé. Ils sont en conflit, mais pas en guerre. En conflit, c'est-à-dire ils se fritent pas, hein, pour vulgariser, mais ils coopèrent pas. Et d'ailleurs, de ce fait, Shikao essaie de s'étendre plus vers l'ouest. Et on a vu, par exemple, les kidnappings des enfants dernièrement dans une région où Boko Haram n'avait pas du tout de présence. Mais Shikao avait dit, à l'époque, qu'il avait réussi à avoir des allégeances de certains personnages là-bas, certains personnages criminels. Bon, ça ne serait pas inédit hein, que certains personnages comme ça rejoignent un groupe djihadiste ou un autre. Mais en tout cas, la filiale Lac Tchad de l'État islamique, sous laquelle opère techniquement, ou dans l'organigramme du groupe, celle du Sahel, est une des plus, aujourd'hui, puissantes et des plus, on va dire, militarisées. Quand je dis militarisées, ça veut dire avec une capacité de manœuvre avec du matos, avec des points de repli, avec des stratégies, avec des checkpoints fixes. Hein, dans certaines zones, et une économie qui nourrit tout ça.
Donc toute cette nébuleuse donc, qui part du lac Tchad pour s'étendre jusqu'en Afrique de l'Ouest, c'est cette sous-division de l'État islamique.
C'est l'État islamique, Afrique de l'Ouest. Mais il faut faire attention, dans l'organigramme c'est comme ça, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de continuité territoriale.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, il n'y a pas de continuité territoriale. Est-ce qu'il y a des transferts, des petits transferts ? Oui, mais on n'est pas dans le cas de figure de Syrie-Irak, il n'y a plus de frontières et les convois passent des deux côtés.
D'accord, donc ils ont une présence au lac Tchad, ils ont une présence en Afrique de l'Ouest, on n'est pas sûr, on ne sait pas si ça communique, on ne sait pas s'ils ont des lignes sûres entre les deux, mais en tout cas ça c'est les deux régions de présence forte de l'État islamique en Afrique, disons, centrale.
Avec le Sinaï.
Avec le Sinaï, et dont une de ces deux zones autour du lac Tchad qui pourrait, en tout cas, qui est la zone la plus proche de redevenir un bastion territorial de l'État islamique. Enfin, dernier sous-espace, j'en parle parce qu'on en parle très 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 peu souvent, mais je pense qu'il faut le mentionner quand même, c'est peut-être l'Asie du Sud-Est, où l'État islamique a fait des investissements, où il y a eu des allégeances à l'État islamique, où on sait qu'il y a une vraie menace terroriste, il y a eu des attentats en Indonésie, aux Philippines. Qu'est-ce qu'il en est de quand est-ce que ça remonte en quelque sorte, et où est-ce que ça va en ce moment ?
Bah écoutez, on fait bien de parler des Philippines parce que la bataille de Marawi, c'est 6 mois quand même, hein, au prix de la destruction totale de la ville.
Donc rappelez-nous ce que c'est.
Marawi, c'est une ville qui a été contrôlée par des djihadistes donc, qui ont voué allégeance à l'État islamique. Et pour les déloger, l'armée philippine, avec un apport américain important, ça leur a pris 5-6 mois pour les déloger. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus d'emprise urbaine. Aux Philippines, mais la guérilla qui a plusieurs décennies d'âge existe toujours, hein, et ça se fait aujourd'hui sous la bannière de l'État islamique. Pour l'Indonésie, c'est plus compliqué. C'est vrai, il y a eu des attentats, mais c'était des attentats qui ressemblent plus à ce qu'on a eu ici en Occident.
C'est-à-dire des choses très ponctuelles, mais qui ne répondent pas à une assise territoriale.
Voilà, des attaques donc importantes, hein, mais ponctuelles, avec des équipes. Voilà. Il y a eu le contrôle d'une prison à un moment, donc émeute dans la prison, contrôle de la prison. Puis il y a eu un facteur, il y a quelques mois, où on voit que l'État islamique s'est imbriqué sur un conflit entre musulmans et chrétiens dans une île, où il s'est attaqué à un village chrétien et ça a été revendiqué au nom de l'État islamique. Donc ça, c'est une première, on va dire, où on voit aussi qu'un petit groupe de rebelles dans une île en Indonésie, aujourd'hui, opère en tout cas sous la bannière de l'État islamique, allait se venger contre des chrétiens, parce que ces mêmes chrétiens avaient commis des exactions, mais il y a 15 ans. Donc on voit que l'État islamique essaye de rentrer dans cette dynamique-là.
Mais ça, par ailleurs, ça répond, c'est intéressant, ça répond à ce qu'on décrivait déjà lors de notre première émission sur le fait que l'État islamique, c'est en tout cas la marque sous laquelle on peut ranger des insurrections pour des raisons très diverses et variées, et qu'une insurrection d'une communauté musulmane, une révolte et des actions armées, c'est assez facile de la tamponner, État islamique. En tout cas, c'est le tampon qui est le plus attirant aujourd'hui dans la situation actuelle.
Tout à fait, mais il ne faut pas le sous-estimer non plus. Ça veut dire les gens, tous ces groupes-là, quand ils décident de rentrer sous cette bannière, qui est celle de l'État islamique, ils le font aussi en toute leur âme et conscience, avec les conséquences que ça engendre.
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement cosmétique.
C'est pas juste cosmétique parce que ça a un prix. Ça a un prix très très lourd. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du Chicago. On a dit, à un moment, le gouvernement du Nigeria a dit le kidnapping des lycéens, c'est un groupe criminel. Puis après, on a vu la vidéo sortir du côté de Boko Haram. Et donc, des groupes criminels, ils veulent être criminels. Hein. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir le label terroriste et attirer les regards vers eux sous cette étiquette-là. Donc, quand un groupe rejoint ou une insurrection se met sous la bannière, que ce soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, ça a du sens. Ça a du sens et après, le lien organique, aujourd'hui, il ne faut pas l'imaginer comme c'était il y a quelques années, mais je vous ai donné un exemple. Comment Baghdadi a destitué deux fois les chefs de sa filiale Lac Tchad.
Et comment ça a eu une effectivité? Ça n'est pas seulement une déclaration, ça a eu un effet sur le terrain.
Alors qu'il était dans un village à Idlib, reclus avec ses proches, et il n'y avait plus de califat du tout. Hein. Et d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé aussi, par exemple, et c'est important parce que ce sont des indicateurs pour ceux qui observent. Après la mort de Baghdadi, il y a eu une annonce, bien sûr, donc, du nouveau de son successeur, hein, Abu Ibrahim. Et les allégeances, et ça, moi, je surveillais ça de très près, les allégeances à ce nouveau calife, donc en vidéo, c'est pas des communiqués, en vidéo avec des gens qu'on voyait, ça a pris une semaine pour que toutes les allégeances arrivent de par le monde. Et c'est très significatif, une semaine après sa mort. Et donc, il n'y a pas eu, parce que si, par exemple, les allégeances n'arrivaient pas, on pourrait dire, bon, Baghdadi est mort, c'est pas très solide, tout ça, on verra. Mais en une semaine qu'ils arrivent à récolter les allégeances de tout le monde, sur tous les continents, que ce soit Philippines, Sinaï, Nigeria, Syrie, Irak, et j'en passe, et que ce soit tout ça acheminé, boutiqué et sorti, en une semaine, c'est assez significatif.
Ça veut dire que le lien est vraiment organique.
Voilà, ça veut dire que le lien est organique. Après, le lien, il y a des, parce que là, par exemple, il y a un rapport pour le Conseil de sécurité sur la présence de l'État islamique au Congo. Et ils disent, on n'est pas sûr qu'il y a un lien. Bon, mais sauf que toutes les actions menées là-bas, revendiquées par l'État islamique, c'est un lien. C'est un lien. Aujourd'hui, le lien, il n'est pas forcément... On se serre la main autour du lac Tchad. Quand ils ont retrouvé un drone, les djihadistes autour du lac Tchad, ils ne savaient pas l'utiliser. Ils ont fait appel à l'État islamique central qui leur a envoyé le manuel. Et quand on voit comment ça évolue, par exemple, au Sahel, au niveau de la fabrication d'explosifs, on peut imaginer qu'il y a des liens immatériels qui aident. Hein, en termes de stratégie militaire, de tactique militaire, de fabrication d'explosifs, ne serait-ce comment diriger le souffle d'Annie Eudé. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être présent physiquement pour apprendre à quelqu'un comment il faut faire.
ويذيب روحي نوح كل حمامة فكأنما نوح الحمام حمام من كان مثلي للأحبة فاقدا لا تعذلوه فالكلام كلام إن كنت مثلي للأحبة فاقدا أو في فؤادك لوعة وغرام قف في ديار الضاعنين ونادها يا دار ما فعلت بك الأيام.
Alors là, on a vraiment vu toute l'exportation, toutes les délocalisations, parce que la mondialisation de l'État islamique, on va le répéter, qui ne commence pas du tout avec la chute de l'État islamique, qui commence bien avant, les jalons sont posés dès les débuts, dès 2013-2014, dès les débuts en tout cas du califat. Mais maintenant, si on revient justement un peu vers la Syrie et surtout l'Irak, est-ce qu'on peut faire un bilan de la situation actuelle? Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que le territoire a été largement reconquis par la combinaison de frappes aériennes de la coalition et d'une action au sol des forces kurdes d'un côté et de l'armée irakienne, si on peut appeler ça comme ça, mais de l'autre. Mais la question, c'est où est-ce qu'ils sont partis, ces djihadistes, en tout cas ceux qui n'ont pas été éliminés, où est-ce qu'ils se sont dilués, et pourquoi est-ce qu'ils ressortent du bois maintenant, puisque l'attentat d'il y a quelques semaines à Bagdad est bien de leur fait. On peut rappeler d'une manière générale que les forces occidentales, et notamment américaines, continuent de décroître. On a 2500 soldats américains, c'est moitié moins qu'il y a un an, et le mouvement n'a pas l'air de vouloir s'interrompre. Donc, voilà. Est-ce que c'est suffisant par rapport aux capacités des forces irakiennes elles-mêmes? Pourquoi faire? Et enfin, je reviens à la question, ces djihadistes qui ont disparu en tout cas, où est-ce qu'ils ont disparu et comment est-ce qu'ils se reconstituent?
Il ne faut pas dire que beaucoup ont été tués aussi. Hein. Ils n'ont pas tous été tués, mais ce sont les enfants de cette terre hein, finalement. Hein. Donc il y a pas mal qui se sont dilués dans la population. Il y a des enfants qui sont devenus adultes, donc qui sont en âge de prendre les armes. Il y a des millions de personnes parquées dans les camps, avec zéro perspective, des camps de réfugiés, hein, de déplacés, pardon. en Irak. Et tout ça, ce sont des viviers, on va dire, pour les djihadistes. Et par rapport à la situation précédente, donc avant la remontée en puissance 2011-2012-2013, les raisons objectives qui ont mené à la montée en puissance pendant ces années-là, aujourd'hui, elles sont aggravées. Elles sont aggravées parce que la situation est beaucoup plus grave, économiquement parlant, politiquement parlant, et parce que l'État islamique a réussi à créer la même toile qu'il avait en Irak, en Syrie. Donc aujourd'hui, c'est une zone ouverte où le conflit en Irak se nourrit de celui en Syrie et vice-versa. Donc ça, c'est à prendre en considération. Ceci dit...
Donc c'est un peu en pause, c'est un peu... Enfin, évidemment, ça, on n'est pas au sommet de 2011 à 2014, disons, enfin, voire 2015-2016. Mais quand même, disons, les réseaux sont là et l'infrastructure est là pour une remontée en puissance et en intensité, le cas échéant.
Tout à fait. Tout à fait. Tout est là et aggravé à cause de l'ouverture totale vers la Syrie. Ceci dit, l'attentat, donc le double attentat kamikaze à Bagdad...
21 janvier.
21 janvier, dans un quartier chiite. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce quartier est visé. Mais effectivement, au cœur de Bagdad, il n'y avait pas eu d'attentat depuis 3 ans. Mais dans la ceinture de Bagdad, il y en a eu. Et dès qu'on a élargi un peu plus, il y en a eu des attentats kamikazes, hein, parce que les attaques n'ont jamais cessé. Il y a eu des centaines d'attaques à cheval entre la Syrie et l'Irak, si ce n'est plus de 1000, quoi. Mais ce n'est pas un indicateur, on va dire, d'un retour, hein. Parce que si on compare, encore une fois, avec la période précédente, avant la montée en puissance, exemple très parlant, quand le président Hollande a visité Bagdad, le jour où il a visité Bagdad, en 2017, si ma mémoire est bonne, il y a eu 10 attentats de manière simultanée à Bagdad. Donc voitures piégées, kamikazes, etc. Aujourd'hui, on ne voit pas cette capacité-là. Aujourd'hui, on a vu ces deux kamikazes, on a vu d'autres attaques doubles kamikazes pendant l'année 2019 dans la ceinture de Bagdad, mais on ne voit plus de capacité de voiture piégée, on va dire, ou d'attaque coordonnée à la voiture piégée. Donc ça, c'est aussi un indicateur. Est-ce que l'État islamique a pris une décision de garder une empreinte faible, mais juste de faire des rappels de temps en temps, peut-être.
Mais pourquoi est-ce que ça a tant décru depuis 2017? Parce que la continuation de l'action de la coalition, etc.
Capacité humaine. Ils ont été très amoindris, on va dire, en termes de capacité et de compétences humaines, par les frappes et par les opérations, que ce soit donc l'armée irakienne, la police américaine, surtout par les forces spéciales. Les forces spéciales françaises sont toujours présentes sur place et elles opèrent toujours. Donc c'est qu'il y a toujours des gens face à qui opérer. Idem pour les Américains. Tous les jours ou toutes les semaines, il y a une opération héliportée, que ce soit en Syrie, en Irak, des descentes. Là, les Irakiens ont annoncé la mort du Wali d'Irak, donc du gouverneur pour l'État islamique de l'Irak, qui est une figure importante. On ne va pas rentrer dans les noms parce que c'est assez compliqué, mais une figure importante qui a été éliminée il y a encore une semaine. Et donc,
Ça tape ponctuellement par des opérations commando, forces spéciales. Mais c'est intéressant, ça renvoie à la nature des opérations commando, qui sont très bien pour éliminer des... Enfin, et les Français et les Américains sont très très forts pour ça, pour éliminer des gens ponctuellement. Mais les commandos, le mode d'action commando a aussi ses limites, qui est que ça ne permet pas d'assurer une présence partout, qui est que ça... Le ciblage de cibles ponctuelles ne permet pas d'assurer une présence, une sécurité globale sur le territoire. Donc la question, c'est... les troupes, les effectifs, ils continuent à reculer. Personne n'a envie d'immobiliser encore des milliers de soldats pendant des années. Les Américains, je le répète, continuent de retirer, en tout cas dans les derniers mois de la présidence Trump, à très fort rythme, leur personnel. Est-ce que on peut penser que la capacité d'action occidentale va être maintenue malgré tout? Parce qu'on sait qu'il y a toujours des avions, etc., il y a toujours des frappes qui peuvent être faites. Mais s'il n'y a pas de présence au sol en complément, ça s'arrête assez rapidement.
En tout cas, pour le moment, l'État islamique, en tout cas pour l'Irak, il n'a pas d'ambition de retour en zone urbaine. Parce qu'il sait que ça va lui coûter très cher. Et parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire de la guérilla de loin et de contrôler les zones rurales la nuit. C'est là où il se nourrit, en gros, parce qu'il a encore une assise populaire.
Notamment par la contrebande, etc.
Voilà, ça, ou taxer les gens, ou faire payer les convoyeurs. C'est surtout de la microéconomie, hein, ça veut dire les petits marchands, les parkings, une petite taxe, petit à petit, ça fait beaucoup de choses. Et donc c'est le même mode opératoire, on va dire, au nord de l'Euphrate, en Syrie. Et les territoires sont totalement, totalement reliés. Donc, nord de l'Euphrate, contrôlé par la coalition avec les Kurdes, avec le YPG kurde. Mais on commence à voir, et ça aussi, ça fait partie des indicateurs. C'est-à-dire, si en Irak et au nord de l'Euphrate, ils n'arrivent pas à monter des opérations complexes, hein, ou très rarement, fin fond d'Anbar, on voit un pick-up avec un 12-7 et une attaque plus ou moins coordonnée, mais ça reste rare pour l'Irak. Par contre, au sud de l'Euphrate, donc la zone qui est contrôlée par l'armée syrienne, les milices chiites iraniennes, et dans les airs, on a les Russes, ils arrivent à monter des opérations assez complexes. Pour la simple raison que le contrôle par les airs des Russes est beaucoup moins précis, beaucoup moins efficace que celui de la coalition, donc au nord de l'Euphrate et en Irak. Donc on voit au sud de l'Euphrate, ils s'attaquent maintenant à des convois de l'armée syrienne, ils montent des opérations complexes avec pick-up, véhicules, etc. etc. Donc et donc ça répond à votre question, c'est que s'il n'y a pas l'apport occidental aérien, évidemment il y aura un retour beaucoup plus appuyé des djihadistes pour les raisons qu'on vient d'exposer. Hein. Ce n'est pas encore le cas, parce que de un, ils n'ont pas l'ambition urbaine encore, de deux, la coalition est encore présente malgré tout, mais il n'y a rien qui empêcherait un retour en force, parce que tous les éléments objectifs qui ont amené cette montée en puissance il y a quelques années sont aujourd'hui aggravés, encore une fois.
Oui, et puis on peut rappeler que c'est par ailleurs un jeu compliqué en Irak avec aussi des milices chiites qui ont été mobilisées à l'époque pour combattre l'État islamique.
Ah oui, ça c'est notre paire de manches. C'est-à-dire, les milices chiites qui ont été mobilisées pour combattre l'État islamique avaient aussi un plan. Et donc un plan de rester et de perdurer. Et d'ailleurs, elles ont été incorporées dans les institutions de l'État en partie, en bonne partie. Donc maintenant, ils touchent des salaires de l'État. Donc c'est très aujourd'hui difficile, c'est devenu très difficile de décortiquer tout ça avec toute la bonne foi, on va dire, du Premier ministre actuel et son penchant vers les Américains. C'est très, très dur aujourd'hui de mettre un terme à la montée en puissance de l'influence des milices iraniennes. Et ça, c'est une autre paire de manches. Hein.
Est-ce qu'on a simplement, alors c'est très difficile et j'essaye de pas trop le faire ces temps-ci, de faire de la politique fiction avec la nouvelle administration américaine, parce que on n'en sait rien, on n'en sait jamais rien, mais simplement, est-ce qu'on a des indices, même vagues, de ce que ça pourrait être, de si le désengagement a vocation à se poursuivre, s'il y a une stratégie en tout cas pour le désengagement, voire ou pour la réorientation des forces américaines au Levant, puisque bon, rappelons que c'est évidemment les Américains qui sont les maîtres de ce jeu-là. La coalition largement suit les impulsions américaines.
En tout cas, pour la Syrie, il n'y a pas de signe aujourd'hui que ça va changer. Hein. Parce que même quand Trump faisait des déclarations, finalement, sur le terrain, ça ne bougeait pas trop en ce qui concerne la Syrie. Hein.
Donc, c'est-à-dire accepter le statu quo,
oui,
Bachar,
voilà, et
Iran,
continuer à rester là, oui, continuer à rester là pour essayer de maintenir, on va dire, l'administration kurde à flot. Voilà. En ce qui concerne l'Irak, évidemment, ils vont rester du côté du Kurdistan, hein, appuyés par les Américains. Mais après, la grande question, et j'ai pas la réponse, quel sera le jeu avec l'Iran? Parce que Trump, qui a été très très fort en tuant Qassem Soleimani en début d'année dernière, en allant vraiment fort en termes de déclaration ou même dans les faits, en essayant d'aller très fort en tout cas contre les milices, l'influence des milices chiites, etc., il a vu la limite de son action.
Rappelons que Qassem Soleimani, par ailleurs, a été éliminé au moment où... Enfin, c'était le grand architecte de la présence iranienne en Irak.
Notamment... Pas qu'en Irak, hein, dans tout le Levant. Hein.
Bien sûr, mais notamment à travers la diffusion de milices chiites, la prise de pouvoir de milices chiites de plus en plus forte. Donc c'était pour ça.
Oui, parce que c'est des gens, c'est-à-dire Soleimani et même les Iraniens, ils ont un plan. Hein. Ça veut dire quand... c'est bien de donner des exemples précis, parce que ça permet d'imaginer, quand Amerli, la ville d'Amerli, était encerclée par les djihadistes, le siège a été cassé par les avions américains, puis c'est Qassem Soleimani qui a été paradé dans la ville en disant aux gens, C'est nous qui les avons libérés. Et c'était le jeu tout le temps. Ça veut dire à chaque fois l'apport de l'aviation américaine et de la coalition en général qui permettait la reprise des villes au prix très cher, au prix de leur destruction finalement. Mais la perception au sol, on va dire, pour les gens, était c'est Qassem Soleimani, c'est le Hajj, c'est les chiites qui sont en train d'évincer les djihadistes. Donc pour ceux qui sont du côté des milices chiites, donc les chiites, c'était très bien. Pour les sunnites, c'est perçu comme des défaites. Hein, comme des défaites cuisantes. Quand Qassem Soleimani parade à Tikrit, donc la ville de Saddam, et les miliciens taguent les murs en insultant Saddam, et ça s'est fait sous les ailes des avions américains, après ça va être dur de convaincre les sunnites que... C'est pour leur bien, on va dire. Et c'est cette dynamique qui s'est enclenchée donc sous Obama. Puis Trump est venu avec ses gros sabots pour essayer de mettre un terme à ça. Il n'a pas réussi. Est-ce que cette administration-là va réussir à faire avancer ses pions en Irak ? On verra bien.
Enfin, rappelons qu'il y a encore tout ça encore compliqué par la guerre au Yémen en parallèle, oui. Et par le fait que c'est les milices iraniennes, enfin les milices soutenues par l'Iran, les Houthis, face aux troupes, enfin au gouvernement soutenu par les Saoudiens et les Émiratis, mais donc avec des armes occidentales, et que tout ça complique encore considérablement un tableau qui est déjà suffisamment compliqué pour l'Irak. Mais on a bien compris en tout cas sur le tableau, sur la scène irakienne, sur les territoires qui sont ceux de l'ancien califat, clairement l'État islamique est pas dans la remontée en puissance qu'on pourrait éventuellement voir de loin, en tout cas pas en Irak. Et qu'il se réoriente, il a tendance à se réorienter vers des bastions qui sont là depuis très longtemps, notamment en Afrique.
سكوز تران دغش النوان ديني ريسا استانا قام تكتي فوت امي ديوان ليتا سني دلاد الشكوى اينا ينورني سنجي تسانا تابار سكوز تران دغش النوان
Et justement, j'aimerais terminer par là, par reparler un peu du Sahel, puisque on l'a dit, ça a été une des destinations de l'État islamique pour s'implanter hors de ses bases califales, et que c'est une présence qui a évidemment survécu à l'intervention de la coalition en Irak et en Syrie. Alors, je l'ai dit, on ne va pas refaire votre premier passage où vous nous dressiez clairement la situation au lendemain de l'élimination d'Abdelmalek Droukdel, donc l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui était en réalité, voire en opposition avec l'État islamique.
En guerre.
Oui. Mais on avait fait cette émission, à vrai dire, très peu de temps après l'élimination de Droukdel, et donc on était vraiment en suspens de savoir comment ça allait se reconfigurer. Est-ce que l'affaiblissement d'Al-Qaïda dans la région allait profiter à l'État islamique ? Si oui, comment ? Ce qui, soit dit en passant, on peut le dire, était un peu, voire complètement, la stratégie française, c'est-à-dire affaiblir ACMI, quitte à renforcer un peu l'État islamique dans la région, mais qui est nettement moins puissant, donc ça paraissait un risque calculé. Donc, quelques mois après, comment est-ce que ACMI s'est remis de ce coup, de cette décapitation, littéralement, de son organigramme, et qu'est-ce que ça a signifié donc, pour la présence en face de l'État islamique au Sahel ?
En fait, il faut se dire que après la réunion de Pau, on a mis le paquet sur la zone des trois frontières, donc la France a mis...
La réunion de Pau, c'est donc une grande réunion voilà, par le président Macron avec tous les partenaires de la zone sahélienne.
Voilà, en janvier 2020. Voilà. Et donc, cette réunion d'ailleurs, qui devait se passer en décembre 2019, a été retardée à cause d'une attaque de l'État islamique d'une caserne de l'armée du Niger. Et c'était une première attaque djihadiste de l'État islamique sur zone qui avait un effet diplomatique en fait, parce qu'elle a retardé la réunion de Pau. Donc on voyait qu'il y avait une montée en puissance, en tout cas de l'État islamique sur zone. En 2019, il y a eu la revendication du premier militaire français mort par IED par l'État islamique. Il y a eu la collision entre les deux hélicos français en novembre. Et c'était dans le mois de novembre, hein, 2019, il y a eu 14 militaires français tombés dans une confrontation ou à cause d'une confrontation avec l'État islamique. Donc il y a eu une décision de se concentrer à comment... on va dire, contenir l'État islamique dans la zone des trois frontières. Et cet objectif-là...
Les trois frontières, rappelons, Mali, Niger, Burkina Faso.
Voilà. Et donc cet objectif a été atteint. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'État islamique n'est plus en capacité, et ça aussi, c'est ça les indicateurs. Hein. Parce qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'erreur. C'est-à-dire un coup de couteau, une attaque terroriste ne vaut pas une attaque montée paramilitaire ou militaire. Et donc aujourd'hui, dans la zone des trois frontières, l'État islamique n'est plus en capacité de monter des attaques complexes, comme il a pu faire contre le Niger, contre le Burkina ou contre l'armée malienne.
Et c'est pour ça que, dans une certaine mesure, la France est donc autorisée, en quelque sorte, à reporter son attention sur Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Justement, c'est qu'on va dire, il y a eu une période, encore une fois, hein, pour vulgariser, la France a fait du quantitatif sur l'État islamique et du qualitatif sur Al-Qaïda. Mais c'est logique parce que les high value targets, donc les cibles à valeur ajoutée, on va dire, donc les commandants, les vétérans du djihad, sont tous du côté d'Al-Qaïda. Parce que c'est les plus anciens et c'est les plus connus, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Mais ça allait de pair. Donc, il y a Abul Humam qui a été tué, donc c'était le second de Iyad Ghali. Il y a Abou Ayad, le Tunisien, qui a été tué. Il y a Ag Moussa qui a été tué. Il y a Droukdel qui a été tué. Et tous ces gens-là sont du côté d'Akmi. Mais en même temps, il y a du chiffre, on va dire, entre guillemets, du côté de l'État islamique. Mais le fait d'avoir contenu l'État islamique dans nos trois frontières a fortifié, on va dire, Al-Qaïda. Et puis la France, mi-2020, aussi a décidé de remettre un peu le paquet sur Al-Qaïda parce que ça a été perçu comme pas juste un danger sécuritaire, ce que je développe dans un papier que je viens de rendre à un think tank américain, c'est que Al-Qaïda est perçu pas juste comme un danger sécuritaire comme l'État islamique, mais aussi comme un danger politique. Parce que l'implantation au sein de la population et dans le tissu local est beaucoup plus importante. Donc, ce qui s'est passé dans cette zone, on va dire, du centre Mali est très significatif dans la zone trois frontières. Parce que quand la France tapait sur l'État islamique, ça renforçait Al-Qaïda. Mais quand ça tapait Al-Qaïda, l'État islamique a pu revenir dans cette zone qui était contestée avec Al-Qaïda. Et il y a eu deux fois des allers-retours comme ça où taper l'un renforçait l'autre. Et à un point où, pour certains locaux, on va dire, les gens se demandaient pourquoi la France tapait Jnim et donc Al-Qaïda, qui les protégeait de l'État islamique, et vice-versa. Hein. Donc aujourd'hui, l'État islamique, on va dire, dans cette zone-là, est fort, où il a plus ou moins une liberté d'action au Niger, parce que la majorité des recrues sont des peuls du Niger, et moins de capacité d'activité au Mali, mais parce qu'il est contenu, donc pas à Barkhane, mais aussi par les djihadistes rivaux d'Al-Qaïda. Mais ça ne veut pas dire que l'État islamique n'a pas de potentiel, parce qu'il y a eu aussi des indicateurs comme ça. Il y a eu un massacre de Zarma, hein, dans deux villages à la frontière entre le Niger et le Mali, et on a compris après que, donc massacre commis par l'État islamique, mais on a compris que ce sont des Armas eux-mêmes qui sont venus dans leur village en essayant de taxer la population, une taxe révolutionnaire, on va dire, pour l'État islamique. Ça a été refusé, ils ont été tués, puis d'autres sont venus les venger. Et donc, ce n'était pas entre peu les Armas, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et on voit que quand des populations locales, maintenant, font appel à l'État islamique pour résolution de conflits sanguinaires, mais résolution de conflits quand même. Donc aujourd'hui, les populations là-bas sont dans une configuration assez critique où ils sont obligés de choisir un camp, donc Al-Qaïda ou l'État islamique, et à défaut, un autre groupe, donc que ce soit des trafiquants, de criminels, mais tout ce beau monde-là n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État malien, ce n'est pas l'État du Niger, ce n'est pas l'État du Burkina Faso. Et donc, ça complique la situation et ça ouvre des portes, en tout cas, pour les groupes djihadistes qui veulent vider ces zones frontalières de la présence de l'État.
Oui, j'allais y venir, mais simplement, ACMI et l'État islamique sont en conflit ouvert, mais avec quelle intensité? C'est-à-dire, est-ce que...
Des centaines de morts. Il y a eu des batailles rangées avec un niveau de violence inouï. d'après des témoignages locaux. Hein. Ça veut dire qu'il faut.
Et donc on peut dire que là, pour un groupe comme pour l'autre, la priorité, c'est vraiment l'autre groupe plus que la présence de l'État malien ou la présence française.
C'est pas la priorité, c'est le danger immédiat. Ils se connaissent, ils savent où ils bougent. Les plus gros dégâts infligés dans leur rang, ils les font eux-mêmes parce qu'ils savent comment opérer. Et il y a des témoignages hein, par rapport aux combats qui ont eu lieu, avec des centaines de morts, avec un niveau de violence inouï dans les combats. Ça veut dire qu'il faut imaginer quand même que c'est du combat au corps à corps qui a été très très dur. Hein. Et même l'État islamique, par exemple, a envoyé des kamikazes contre Al-Qaïda au nord Burkina Faso. Donc on est dans une phase de non-retour.
En plus, c'est un niveau technologique à peu près équivalent. C'est-à-dire que c'est pas comme quand c'est face à l'armée malienne ou l'armée française qui maîtrise la troisième dimension et où donc ça peut se résoudre assez vite. Ça se fait au pick-up et à la 12-7. Voilà. Et donc ça peut durer longtemps et ça peut faire beaucoup de victimes.
Et avec des gens qui se connaissent, ça veut dire, même quand on a une confrontation, on va dire, entre Al-Qaïda et l'armée malienne, ou une attaque contre Barkhane, on sait après comment ça se disperse, c'est très dur de les retrouver. Mais eux, c'est les enfants, encore une fois, de la région, ils se connaissent, ils savent où les uns et les autres bivouaquent, quels sont leurs points de chute, quelle partie de la population est plutôt de ce côté ou de ce côté. Et ça, ça fait des dégâts énormes dans leur rang, dans cette confrontation donc, intestine, mais aussi pour les populations locales, qui, encore une fois, sont obligées de choisir un camp ou d'aider un camp contre un autre. Et après, payer le prix. Parce qu'il faut rappeler que ces zones-là, l'État n'est pas présent. Donc, que ce soit malien, au Burkina ou au Niger. D'après les derniers, par exemple, chiffres, les statistiques, les chiffres d'ACLED, on voit que les morts civiles depuis 2017 sont plutôt par les mains des forces gouvernementales et des milices locales que par la main des djihadistes. Donc ça démontre à quel point la situation est devenue compliquée et pour les civils.
Oui, c'est-à-dire, il y a des centaines de morts de part et d'autre entre djihadistes, mais à la rigueur c'est entre eux, alors que les exactions sur les civils auraient plutôt tendance à être du fait de l'autorité de l'État, ce qui évidemment pose un problème majeur.
Exact, ce qui pose un problème et ce qui renfloue les rangs des djihadistes aussi.
Et c'est ce que j'allais dire, c'est au moment où on parle beaucoup de l'avenir de Barkhane et de la soutenabilité d'une telle opération, financièrement, humainement, etc., on peut dire peut-être un mot de ce qui a évolué depuis la dernière fois qu'on en a parlé. C'est-à-dire que la dernière fois, vous nous disiez justement que les possibilités de désengagement sans recréer un sanctuaire djihadiste au Sahel, ça dépendait un peu de la capacité à recréer une autorité étatique malienne, nigérienne, burkinabé, etc. Surtout malienne, en l'occurrence pour ce qui concerne Barkhane, puisque c'est la zone prioritaire d'opération. Et donc, d'éviter au maximum les exactions, puisque c'est ça qui nourrit le ressentiment et qui donc fournit le ferment des groupes djihadistes. Alors, où est-ce que ça en est Après, on parlera de l'actualité récente, mais disons le tableau général de ces exactions et donc du sentiment de la population civile de ces zones-là par rapport à l'autorité de l'État, voire à la présence de la France.
La situation s'est aggravée.
Depuis
6 mois, la situation s'est beaucoup aggravée au centre du Mali. Si on veut parler du Mali, les gens se retrouvent à être obligés de faire des accords locaux dans lesquels l'État n'est pas du tout associé. Certains accords locaux dans lesquels les djihadistes sont des power brokers, c'est eux qui gèrent ça, et en l'occurrence les djihadistes du JNIM, d'Al-Qaïda, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en étant ce genre de power broker. Ça veut dire qu'ils deviennent indispensables, on va dire, à la vie dans ces zones-là, comme acteurs politiques, au-delà du fait, on va dire, djihadiste ou terroriste.
Et paradoxalement, l'autorité, l'image de l'État malienne est telle que c'est JNIM, donc Al-Qaïda, qui joue le rôle de l'État,
voilà.
De l'autorité.
Que ça soit une justice expéditive, certes, mais une justice ou un semblant de justice quand même.
On peut rappeler, on en avait parlé avec Adam Bachko notamment au sujet de l'Afghanistan, mais rappelons qu'une des modalités d'implantation des groupes djihadistes, c'était un des premiers têtes chercheuses avec Adam Bachko, et une des modalités d'implantation des groupes djihadistes, c'est de rendre la justice, même de la mauvaise justice, même de la justice expéditive, mais il y a un besoin de légalité et de justice qui est un des espaces par où s'infiltrent les groupes djihadistes pour assurer leur présence et leur légitimité dans ces territoires.
Oui, et même là, le Al-Qaïda, donc je dis, ils sont en train de rentrer dans les détails des détails de la vie de tous les jours, de comment gérer un point d'eau, comment régler un conflit autour d'une tête de bétail. Et ça les intéresse parce que c'est comme ça qu'ils s'implantent. Et on voit paradoxalement, par exemple, que même le Mali a dit, que ce soit ce Ibeka ou après avec le nouveau pouvoir,
Ibrahim Boubacar,
voilà, qu'il est prêt à négocier avec les djihadistes. Et maintenant, le Burkina Faso emboîte le pas. On voit depuis quelques mois, par exemple, dans la région de Djibo, c'est plutôt calme. Et on sait maintenant qu'il y a eu des négociations, on va dire, sous la table entre les autorités et les djihadistes qui sont rendues publiques par le Premier ministre du Burkina il y a quelques jours en disant « on est ouvert à des discussions ». Donc on revient à quelque chose, à une dynamique qui a été totalement, on va dire, occultée ou refusée par la France et qui devient de fait une réalité aujourd'hui, que ce soit au Mali et maintenant au Burkina Faso. Et que donc de fait, ça devient très difficile pour Barkhane d'opérer et d'être perçu comme une force, on va dire, libératrice. Juste, je vous rappelle, pour rappeler la difficulté du combat, le dernier attentat kamikaze donc, qui a visé un convoi commun Barkhane et forces armées maliennes, le kamikaze était très très jeune, il conduisait un tricycle, mais il était très très jeune. Dans les dernières images qu'on a vues...
Un tricycle, c'est un triporteur motorisé.
C'est un taxi, voilà. Voilà, ce qu'on dit, triporteur. Et donc on a vu les images de l'attaque de Boni, de la caserne de Boni, contre l'armée malienne. Les djihadistes, il y a une bonne partie, c'est des enfants soldats. Hein. Donc c'est des pré-ados. Et donc c'est difficile. C'est très difficile. Le combat est difficile. La perception des forces est difficile.
Mais donc on peut dire que ça s'encadre dans un mouvement de perte totale d'autorité de l'État et que c'est dans ces régions-là, et que c'est un chapitre de plus, disons, qui rend le désengagement de Barkhane, dont on parle tant à l'heure actuelle, aussi compliqué, quoi.
Oui, voilà.
Parce évidemment. Que s'il s'agit de partir sans laisser d'État malien ou avec un État malien complètement discrédité, enfin, on mesure bien ce que vous nous décriviez tout à l'heure. Il y a la guerre civile, pas du tout la guerre civile, mais il y a la guerre intestine entre Acmi et l'État islamique. Il y en a un des deux qui va gagner, mais à la fin, s'il n'y a pas d'État pour reprendre le relais derrière, c'est une fois qu'il y en aura un des deux qui aura gagné, ça redeviendra un bastion djihadiste.
Oui, le problème, ce n'est pas l'État en tant que... C'est-à-dire, c'est pas l'État avec sa police et son armée. C'est la sécurité importante, mais il faut que l'État de service, d'administration, de justice revienne. C'est ça que les gens veulent. Parce qu'il faut imaginer aussi que... Paradoxalement aussi, hein, c'est-à-dire la contestation de la présence française, politiquement parlant, est plus à Bamako que dans le Nord, où la présence française a des alliés parmi les Touaregs ou parmi d'autres, parce qu'ils savent qu'il y a un apport de cette présence. Et même le pouvoir politique au Mali, s'ils disent on veut négocier avec les djihadistes, mais ils bénéficient finalement de la force de frappe de Barkhane, sinon il n'y aura même pas table de négociation.
Oui, c'est-à-dire les négociations sont permises par le fait qu'il y a un gros bâton derrière.
Et qu'il y a une pression militaire, oui. Les négociations. C'est-à-dire, on oublie aussi que dans une guerre, il y a une négociation, finalement. Et on augmente ses chances autour de cette table avec la pression militaire. Négociation ne veut pas dire reddition. C'est devenu un terme inacceptable. Mais évidemment qu'il faut négocier. Et si aujourd'hui l'État malien ou le pouvoir malien a la capacité de dire oui, peut-être je vais négocier et avoir des cartes en main, c'est aussi à cause de la pression militaire. Donc ça c'est évident. Mais après, c'est sous quelle forme cette présence va continuer. Donc on parle de la force Takuba, et il y a les Suédois qui viennent de rejoindre la force, après les Tchèques et les Estoniens.
Mais ta force Takuba, rappelons, c'est une mission, disons, mêlée d'armées européennes, qui a vocation, pas du tout à prendre le relais d'ailleurs forcément de l'armée française, mais en tout cas à soulager, à mettre une présence de plus.
En espérant que les armées donc africaines, locales, elles-mêmes prendraient le relais au sol. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pas du tout, qui est aujourd'hui pas du tout palpable. Hein. Parce qu'on en a parlé il y a 6 mois, la situation ne s'est pas du tout arrangée. Et les indicateurs se trouvent au centre du Mali. On regarde le nombre de civils morts, on regarde le terrain sur lequel opèrent les djihadistes, la descente vers le sud, vers la frontière avec la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal. On voit très bien que ça se complexifie.
Merci infiniment, Wassim Nasr, d'être revenu dans le collimateur. Donc je rappelle votre livre, qui est toujours particulièrement pertinent pour le sujet, on l'aura compris, « L'État islamique, le fait accompli », paru chez Plon en 2016, qui reste tout à fait d'actualité 5 ans plus tard. Je signale aussi qu'en plus de votre travail pour France 24, pour lequel on vous aperçoit souvent sur ces sujets, vous écrivez régulièrement en anglais pour le New Lines Institute for Strategy and Policy, où vous venez récemment de publier une note que vous avez rapidement mentionnée tout à l'heure, mais qui est librement consultable sur le changement de leadership d'ACMI, dont on vient de parler, et qui évidemment fait tout à fait le point sur ces sujets. Je mettrai le lien en bibliographie de l'émission. Merci beaucoup.
Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle qu'on apprécie toujours autant quand vous notez et commentez le podcast sur Apple Podcast ou par les divers outils de SoundCloud. Ça participe à la visibilité de l'émission, comme le fait que vous le partagiez ou le recommandiez de manière plus informelle à vos proches ou sur les réseaux sociaux. C'est avant tout ça qui fait sa croissance constante. Évidemment, on est tout aussi preneur de retours en ligne directe, par exemple par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Vous pouvez nous faire savoir ce que vous pensez des divers épisodes et du podcast en général. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.